en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Monsieur le Chancelier honoraire, Messieurs, mes chers confrères et consœurs, Mesdames et Messieurs. L'année dernière, lorsque le Président m'a proposé de parler sur ce sujet, je lui avais dit que je préférais ne pas le faire sous l'aspect exclusivement du Brexit. Ni lui ni moi ne pensions sans doute que le Brexit prendrait si longtemps à s'accomplir, au point qu'il faudrait quand même que j'en parle aujourd'hui. Je craignais qu'il entrait un peu trop dans mon propos. S'il entrait un peu trop dans mon propos, nous risquerions peut-être de répéter la scène de ce dîner de famille représenté par Carandache au moment de l'affaire Dreyfus. Et surtout, ne parlons pas de l'affaire, dit le père de famille à la tête de la table. La caricature suivante s'intitule « Ils en ont parlé ». On assiste à une scène de carnage familial où l'on voit un mari qui étrangle sa femme sur la table. Même le chien de la maison a reçu une fourchette dans le postérieur. Rassurez-vous, mes propos seront, je l'espère, modérés. Pour envisager le sujet sous l'angle historique qui sera le mien, il faut avoir recours à une chronologie réaliste. Il n'est sans doute pas inutile de remonter à Jeanne d'Arc, à Louis XIV ou à Napoléon Ier pour trouver des précédents ou bien des préjugés. Mais je pense que la période d'un peu plus d'un siècle, circonscrite par l'entente cordiale de 1904 à l'entraité de Lisbonne de 2009, serait celle qui nous permettrait de rester dans l'actuel tout en y associant le passé proche. Du moins, ce serait matière à réflexion. Signe d'âge, sans doute, j'ai participé à trois commémorations de l'entente cordiale, en 1994, en 2004 et la dernière en 2014, qui coïncidait aussi avec le 60e anniversaire du débarquement des troupes anglo-américaines en Normandie. Verrai-je celle de 2024 ou même celle de 2034 ? D'ailleurs, continueront-elles sur leur lancée ? Je me le demande. Les célébrations précédentes donnèrent lieu à des publications ainsi qu'à des déclarations officielles. En 1994, dans une introduction conjointe à une brochure de 32 pages publiée par leurs deux ministères, Alain Juppé et Duc Douglas Hurd annonçaient d'emblée que la France et la Grande-Bretagne ont été des amis, des alliés naturels et des concurrents sains. Healthy competitors, depuis plus de 150 ans. La datation manquait de précision, mais elle semblait s'appliquer à 1844 et à la première entente cordiale portant ce nom, celle de Louis-Philippe et de la reine Victoria, tout en évitant de mentionner Napoléon Ier. La difficulté est vite contournée dans la section un peu d'histoire, où un auteur anonyme nous apprenait que les guerres napoléoniennes furent la dernière fois que les deux pays se sont battus de côtés opposés. Comme vous voyez, cela ne nous concernait pas. Le même auteur ajoutait « Indifférent ne sera jamais le mot pour décrire notre rapport. L'un peut toujours rendre l'autre perplexe, tout souvent par inadvertance. Nous sommes distinctement et fièrement divers, tant à l'intérieur de nos propres frontières qu'en par comparaison avec l'un l'autre. Mais nous avons plus en commun que nous ne le pensons habituellement. Ce petit livre nous l'expliquera. » Alors tout y passe. Les racines culturelles dans le Moyen-Âge, avec la féodalité chrétienne et l'enrichissement architectural et artistique, l'humanisme de la Renaissance, les Lumières, le progrès scientifique. On nous dit que des parties de la Normandie ressemblent au Vale d'Evesham, la côte bretonne à celle de la Cornouaille. Ensuite, on passe à la gastronomie pour s'attarder à la vie en Provence ou en Dordogne, apprécié par les expatriates anglais. Et enfin, il y a les exploits du joueur du football de l'époque, Eric Cantona. Telle était l'entente cordiale en 1994, année aussi de l'inauguration du tunnel sous la Manche. Lors de son voyage officiel en 1972, la reine Élisabeth II avait déclaré « Il est vrai que nous ne conduisons pas du même côté de la route, mais nous allons dans la même direction. » On peut parfois se le demander. Revenons en arrière. Mon point de départ sera la guerre de 14-18. Par un curieux paradoxe, l'entente cordiale de 1904, qui ne visait que la résolution de certains problèmes coloniaux, s'était muée en des conversations militaires secrètes et à haut niveau entre nos deux pays, et ensuite en une alliance en temps de guerre. Mais cette évolution n'a pas été sans heurts. Ces conversations secrètes militaires avec la France, commencées sous le gouvernement d'Asquith, avaient été inspirées par la crainte qu'avait une partie de ce gouvernement de la menace navale et commerciale posée par l'Allemagne de Guillaume II. Mais seuls quelques ministres du gouvernement étaient au courant de ces conversations, car les autres ne partageaient pas les vues de leurs collègues au sujet de l'Allemagne et n'auraient pas envisagé une action militaire aux côtés de la France. Certains, comme Lord Haldane, par exemple, pensaient qu'il était préférable de rechercher plutôt une entente avec les Allemands. Ces ministres avaient été tenus à l'écart des conciliabules militaires secrets. La division au cœur du cabinet Asquith éclata au moment de la crise de juillet 1914. Même une lettre au Premier ministre adressée par les chefs de l'opposition conservatrice, rappelant que le pays avait contracté une obligation morale envers la France, n'avait pas refait l'union à l'intérieur du gouvernement. Il avait fallu l'invasion allemande de la Belgique et la violation de sa neutralité, garantie par les grandes puissances dans le traité de Londres de 1839, pour décider le Royaume-Uni à entrer en guerre aux côtés de la France, non sans des hésitations de la dernière minute d'un ministre, Lloyd George, paradoxalement devenu par la suite le grand chef de guerre. Certains ministres donnèrent même leur démission. Mais l'entrée en guerre des Britanniques se faisait sur des bases peu rassurantes pour son allié français. Sa participation se ferait surtout au niveau de sa puissante flotte, avec une petite armée seulement envoyée en France. Les Français se battant sur terre et les Britanniques sur mer, pour ainsi dire. Or, les choses se passèrent d'une toute autre manière. La bataille de Jutland en 1916 fut le seul grand engagement naval et la guerre sur mer fut surtout l'action des sous-marins allemands qui posèrent de grands dangers pour le ravitaillement des Alliés. En même temps, la guerre d'usure des tranchées nécessita une plus grande participation militaire de la Grande-Bretagne en France et ailleurs, entraînant l'introduction de la conscription ainsi que l'emploi de troupes coloniales. L'entrée en guerre du Royaume-Uni aux côtés de la France avait déjà montré que l'entente avait des buts limités, rétablir l'indépendance de la Belgique, freiner l'expansion allemande, sans pour autant adopter les buts de guerre français et russes. Nous avons déjà mentionné ceux qui, parmi les libéraux au pouvoir, auraient préféré, avant la guerre, chercher un terrain d'accommodement avec les Allemands. Chez ces hommes, il y avait, en plus du coût présumé astronomique de la guerre, la crainte des pertes financières et économiques qu'aurait à subir le pays. Certains avaient aussi un préjugé en faveur des Allemands, préjugé de race, et je reviendrai par la suite sur cela. Admiration pour la science, la philosophie et la musique allemande. La France, par contre, avait un côté « belliqueux » entre guillemets, qui inspirait méfiance et crainte. Et puis, il y avait sa frivolité que l'on comparait au sérieux des Allemands. En 1915, afin de renforcer l'entente militaire entre la Grande-Bretagne, la France et la Russie tsariste, leurs nouveaux alliés, on se livra sur papier dans des traités secrets à de vastes partages de territoires en Europe, en Asie et en Afrique, qui se feraient aux dépens des empires centraux et de la Turquie. La France récupérerait l'Alsace-Lorraine, des colonies allemandes, la Syrie. Il fallut attendre pourtant le 12 octobre 1917 pour que la Grande-Bretagne s'engage formellement à ne pas poser les armes avant que l'Alsace-Lorraine ne fût redevenue française. Et cela dans le contexte évoqué par le premier ministre Lloyd George et le président du Conseil Painlevé, que les Allemands pouvaient toujours trouver dans une éventuelle paix négociée une compensation aux dépens de la Russie bolchevique qui nous avait abandonnés au cours de la guerre. Le traité de Versailles fut décevant pour la France qui aurait voulu obtenir la rive gauche du Rhin en plus de l'Alsace-Lorraine. À partir de 1919, la politique étrangère de la Grande-Bretagne s'écarta sensiblement de celle de la France. Elle visait à éliminer les aspects du traité de Versailles qu'elle jugeait intenables et indéfensibles. Elle donna la priorité au rétablissement des relations économiques d'avant-guerre avec la nouvelle République allemande. Comme on l'a vu, l'intérêt de la Grande-Bretagne était le maintien d'un équilibre européen. La menace d'un impérialisme militaire allemand avait disparu, la flotte allemande s'abordait, la Belgique indépendante rétablie, et la France devrait se contenter du retour de l'Alsace-Lorraine et de réparations raisonnables. La Grande-Bretagne ne soutenant pas ses efforts pour obtenir la rive gauche du Rhin. Pour les Anglais, les exigences françaises aurait compromis le nouveau système international basé sur la Société des Nations et nourrissait le revanchisme allemand. Il revenait à une conception minimaliste de la plupart de leurs dirigeants de la seconde moitié du XIXe siècle, mais pas tout à fait à la splendid isolation. Car en dépit de ces différences, la France et la Grande-Bretagne restaient liées l'une à l'autre par l'expérience commune de la Grande Guerre et par une méfiance quand même de l'Allemagne. À moins que l'Europe ne soit menacée d'une nouvelle hégémonie allemande, une alliance entre deux pays restait possible, mais une entente serait difficile. En effet, la France envisageait de parer au danger allemand à l'avance par un réseau d'alliances défensives avec les nouveaux États d'Europe centrale, tandis que les Britanniques mettaient leurs espoirs dans la Société des Nations et s'efforçaient plutôt d'apaiser les Allemands par une politique conciliatrice. En attendant, les préjugés anti-français revenaient à la surface. Ce fut donc sans l'appui des Britanniques que les Français et les Belges occupèrent la Ruhr en 1923 afin d'obliger les Allemands à se mettre à jour pour les paiements des réparations qui leur étaient dues. L'échec de l'occupation mena aux négociations de Locarno 2 ans plus tard. Conclu entre la France, la Grande-Bretagne, la Belgique, l'Allemagne et l'Italie, le traité avait comme effet que ces puissances garantissaient mutuellement leurs nouvelles frontières en Europe de l'Ouest. En ce qui concerne nos deux pays, ce qui les unit semble toujours plus grand que ce qui les divise. Ils sont unis pour affronter le problème de l'Allemagne et des frontières, mais seulement à l'Ouest. Il n'est pas question des alliés de France à l'Est, de son cordon sanitaire. Mais leur solution au problème de l'Allemagne s'écarte toujours l'une de l'autre, et dans les moments de crise aiguë, ils n'arriveront pas à se concerter autour d'une action efficace commune. D'abord au sujet de l'action italienne en Abyssinie à partir de 1935 et surtout suite à la remilitarisation de la Rhénanie par Hitler en mars 1936. La raison est facile à déceler. La France et la Grande-Bretagne ont tous deux la crainte de l'Allemagne redevenue menaçante, mais ils ne sont pas d'accord, on l'a vu, sur les moyens employés pour parer au danger. Mais une crainte encore plus grande que celle de l'Allemagne les hante, la crainte de la guerre. C'est comme si à tout prix il fallait éviter l'hécatombe de 14-18. La France y a perdu 1,3 million d'hommes, la Grande-Bretagne 700 000. Le premier référendum tenu en Grande-Bretagne fut en effet, et cela à titre indicatif, le Peace Ballot de novembre 1934 à juin 1935. Sur une population de 38 millions, 11 640 000 adultes de plus de 18 ans prennent part, c'est-à-dire 38% de la population et plus de la moitié des 21% qui voteront quelques mois plus tard dans les élections de 1935. Il fallait répondre à plusieurs questions avec une seule réponse. Était-on en faveur de la guerre ou de la paix? Était-on en faveur de la société des nations ou pour ou contre le désarmement international? Les résultats étaient prévisibles. 11 millions contre 350 000 en faveur de la paix et de la société des nations. Les autres votes, s'il fallait empêcher l'agression d'un pays, une majorité de 10 millions contre 635 000 privilégiait le recours aux sanctions économiques, tandis que si cela était nécessaire, 6,7 millions seulement favorisaient une action militaire contre 2,35 millions. On ne ferait plus de nos jours des référendums sur des bases pareilles. À l'époque, les résultats furent interprétés différemment, sauf que dans le cas d'une agression commise par un pays, on privilégiait le recours aux sanctions économiques avec un éventuel emploi de la force armée. Heureusement pour nous qu'après sa victoire aux élections de 1935, grâce à un programme de désarmement, le Premier ministre Baldwin annonça à la radio d'une manière magistrale et peut-être assez cynique, prenant le public dans sa confiance, lui parlant « with appalling candor » que la Grande-Bretagne allait en fait réarmer, le contraire de son programme électoral. Mais elle ne fit pas la guerre au sujet de l'Abyssinie et savait qu'elle n'y entraînerait pas la France. Non seulement parce qu'en France, un peace ballot aurait obtenu les mêmes résultats, mais parce que le gouvernement français voulait empêcher l'Italie fasciste de Mussolini d'évoluer vers une alliance avec Hitler. De la même manière, lors de la remilitarisation de la Rhénanie par Hitler en mars 1936, qui violait les traités de Versailles et de Locarno, les Britanniques n'étaient pas en faveur d'une intervention militaire, comme l'avaient proposé assez mollement d'ailleurs les Français, dont le système de défense militaire était pourtant remis en cause. Baldwin déclara à Flandrin que la Grande-Bretagne n'était pas en état de faire la guerre, fit la même réponse plus tard au nouveau président du Conseil, Léon Blum, à propos d'une intervention au cours de la guerre civile en Espagne quelques mois plus tard. Dans ce cas-là, il y avait des différences idéologiques aussi, la Grande-Bretagne favorisant le succès de Franco. Pour comprendre ces réticences de part et d'autre, il faut aussi faire la part aux différentes pratiques de prendre d'importantes décisions bilatérales lorsqu'il fallait tenir compte de la situation parlementaire de nos deux pays, les changements de gouvernement, les rivalités ministérielles, les idéologies contestataires et l'arc-en-ciel de l'opinion, et d'une presse active et puissante comme celle de Lord Rothermere, par exemple, face aux dictatures grandissantes et promptes à la décision, soutenues par les presses d'un parti unique, les démocraties parlementaires étaient souvent tatillonnes et hésitantes, sinon indécises. Dans ses notes pour un homme d'État français qui traverse pour la première fois la Manche de 1938, André Morroy écrivait « Les différences de culture et de tempérament, les souvenirs lointains, le réveil sous des formes nouvelles et diverses de préjugés puritains rendront longtemps encore entre nos deux peuples la coopération un peu difficile. Mais le possible est toujours près du nécessaire et cette coopération est assez c'est aussi utile pour qu'elle devienne un jour plus confiante. Du moins, c'était l'espoir, pas toujours réalisé, d'un homme qui fut officier de liaison entre nos deux armées pendant les deux guerres mondiales. Austen Chamberlain, un des artisans de Locarno et grand francophile, avouait dans ses mémoires de 1935 qu'il y avait beaucoup qui rendait la compréhension mutuelle entre anglais et français difficile. Il y avait aussi un grand mépris outre-Manche pour les hommes politiques français. Barthou était un « nasty old man at heart », Sir George Clark, ambassadeur de Grande-Bretagne, 15 janvier 1935. Lavasse surtout était un « crook », Sir George Clark, Ibid. Beaucoup ne faisaient qu'englober les Français dans une méfiance hostile qu'ils étendaient à tous les étrangers. Lord Cranborne au Foreign Office n'aimait pas « those frightful foreigners ». Baldwin était plus sélectif, réservant sa détestation pour les dictatures de droite et de gauche. Voyons le continent divisé selon un raccourci amusant « between the nasties and the bolshies », qu'on ferait mieux de laisser se battre entre eux. Pourtant, beaucoup d'hommes politiques français ne nourrissaient aucun sentiment d'hostilité envers la Grande-Bretagne et ses politiciens. Ce fut le cas de Blum, Flandin, Reynaud, Mandel et même Laval lui-même. Les diplomates étaient plus critiques à l'égard des Britanniques, tel André Poncet, qui s'attaquait aux clergymen, aux vieilles dames, aux organismes pacifistes, aux intellectuels et aux électeurs du Parti Labour, coupables d'une germanophilie latente pendant que la France serait là pour régler la note. Il visait le cercle de Lady Astor qui se réunissait dans sa super propriété de Clifden, ou bien le mania de la presse Lord Rothermere, admirateur de Hitler, ou des organisations d'anciens combattants comme le Link. Pourtant, en dépit de ces éléments, une majorité voulait quand même l'entente avec la France. Quand vient la guerre de 1939 et après la défaite de 1940, les récriminations ne manquèrent pas de part et d'autre. Cette période de 40 à 44 est bien connue et je n'en évoquerai que quelques aspects. D'abord, il faut dire que les gaullistes de la première heure, ceux de Londres, conservèrent leur vie durant de l'accueil britannique un excellent souvenir, quels que soient les rapports difficiles du général de Gaulle sur le terrain politique. Churchill disait que la croix la plus lourde qu'il avait eue à porter pendant ses années de guerre était la croix de Lorraine. Mais il devait ménager les Américains hostiles à de Gaulle et le gouvernement de Vichy, reconnu officiellement par les États-Unis et avec lequel Churchill avait certains engagements tacites. À la fin de la guerre, les autorités anglaises avaient senti néanmoins la nécessité de faire mieux connaître la France, sa langue et sa culture à travers les écoles et les universités. La guerre entraîna de même la faillite de certaines vieilles idées et préjugés. Dans la France libre de janvier 1944, le journaliste Pierre Maillot, mieux connu sous son pseudonyme de Pierre Bourdan, des émissions gaullistes à la BBC « Les Français parlent ou français », écrivait « La Grande-Bretagne, à travers son histoire, n'a cessé de servir la cause de la diversité européenne avec des motifs et des objectifs variables. » C'est pour cette raison, au-dessus de toutes les autres, qu'il est aujourd'hui encore, sur le plan moral, l'ennemi numéro un de l'Allemagne hitlérienne. Mais tout en rendant au monde ce service, elle a souvent commis l'erreur d'étudier superficiellement la nature interne de ce continent où elle intervenait. La longue illusion de la parenté avec l'Allemagne, renouvelée après 1919, en est un signe. Cette parenté n'existe dans aucun des ordres profonds de la conscience qui font la nature morale d'un peuple. Aucune des convictions secrètes et publiques pour lesquelles un Anglais, un Français, un Norvégien, un Polonais ou un Hollandais pourrait donner sa vie ne ferait risquer une goutte de sang à un Allemand qui, en revanche, accepterait sans murmurer un sacrifice total en vertu d'injonctions qui feraient sourire un citoyen d'un autre pays. Cette erreur d'affinité qui, dans le passé, faisait retenir à l'Angleterre quelques signes superficiels de parenté avec l'Allemagne et ignorait en fonction des différences frappantes mais également superficielles des connexions plus profondes avec d'autres nations, c'est une faute qu'on peut manquer de faire en considérant la carte d'Europe de l'extérieur. Ce texte est à méditer et reste d'actualité. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la Grande-Bretagne avait appris cette leçon, du moins en partie, et le développement de l'étude des langues européennes, ainsi que de l'histoire et la géographie du continent prirent de l'essor. Après 1945, le Foreign Office eut modifié aussi services consulaires et le rôle des attachés commerciaux et des instances culturelles furent attachés ou liés au Foreign Office. Cela dit, il ne faut pas oublier qu'entre 1940 et 1945, tous les pays européens, sauf ceux de la péninsule ibérique, la Suède et la Suisse, furent occupés par les Allemands. Entre 1940 et 1941, la Grande-Bretagne lutta seule contre l'Allemagne et ses alliés. Il ne faut pas l'oublier, car cette constatation influence toujours fortement la perception qu'ont la majorité de Britanniques de l'Europe et de la France. La Grande-Bretagne a contribué à les libérer. Les commémorations de l'anniversaire du débarquement de Normandie, en présence des derniers combattants, arborant tous parmi leurs décorations la Légion d'honneur que la France a tenue à leur décerner, en sont un émouvant témoignage. La Grande-Bretagne et la France renaissante de la Quatrième République s'intégrèrent rapidement dans la nouvelle perspective atlanticiste de l'après-guerre, grâce à l'OTAN, à la guerre froide et à la défense de ce qui restait de leurs empires coloniaux. Une partie de ce système devait s'effondrer après l'affaire de Suez en 1956 et son échec. Si en France, les documents montrent que le gouvernement avait envisagé de reprendre l'opération abandonnée en 56, de la reprendre seule l'année suivante, en Grande-Bretagne, l'affaire de Suez produisit une grave division dans le pays et dans les familles, l'effet presque de la caricature de Carandache que j'évoquais tout à l'heure. D'une manière assez surprenante, Suez fut envisagée comme une honte par une grande partie de l'opinion publique. Une forte et nouvelle tendance libérale et progressiste rejetait aussi le colonialisme, car partout, en Afrique, en Asie et même à Chypre, la Grande-Bretagne combattait le terrorisme, nom qu'on donnait au mouvement de libération, tout ça entre guillemets. Après le départ d'Anthony Eden et la victoire assez surprenante des conservateurs lors des élections de 1959, la crise fut gérée assez adroitement par son successeur Harold Macmillan, qui poursuivit une politique de décolonisation définie par son discours célèbre à propos des « winds of change » qui soufflaient sur l'Afrique du Sud. Macmillan renforça surtout les liens avec les États-Unis, avec le président Kennedy. Cela devint le « special relationship ». En France, la crise engendrée par la décolonisation commença avec la peur de l'Indochine et la guerre d'Algérie et fut à l'origine d'un changement de régime et l'arrivée au pouvoir du général de Gaulle. Lors d'un interview en 1959 pour être admis à un collège d'Oxford, il me fut demandé si je pensais que le général serait un dictateur. J'ai oublié quelle fut ma réponse, sauf qu'elle n'eut pas le mérite de convaincre mes auditeurs. Je n'avais pas bénéficié de la réponse que de Gaulle avait lui-même donnée à la même question. « Regardez-moi, je suis trop vieux pour être un dictateur. » Cela dit, Franco et Salazar l'étaient toujours au même âge à l'époque. Macmillan avait eu des rapports cordiaux avec lui pendant la guerre. Toujours est-il que le général modifia radicalement la politique étrangère de la France avec son retrait de l'OTAN et avec une politique différente au sujet de la guerre froide et de ce qu'il appelait la Russie. Cet abandon de l'atlanticisme ne pouvait qu'inquiéter les Anglais américains et les inciter à resserrer le « special relationship ». Pour les Français, le problème avec de Gaulle se posa aussi au sujet de l'Europe. Macmillan pensait qu'avec la décolonisation et ses conséquences, la Grande-Bretagne se trouvait obligée de rejoindre le marché commun pour conserver son influence et sa position économique. Là, comme on sait, il se heurta, lui et ses successeurs, Hume, Wilson et Heath, au veto du général de Gaulle, qui avait bien senti que la Grande-Bretagne faisait partie de l'Europe géographiquement l'Occident sans être sensiblement européenne. Les Britanniques n'entrèrent finalement dans le marché commun qu'avec l'appui du président Pompidou en 1973, du temps de Heath. Déjà, il y avait eu une forte opposition à l'idée, surtout du part du parti Labour, et il y eut un premier référendum en 1975, du temps de Wilson. Les résultats donnèrent une majorité pour rester dans le marché commun. En votant ainsi, les Britanniques ne pensaient pas qu'ils votaient pour une Europe unie, qui rognerait peu à peu le pouvoir des gouvernements et parlements nationaux. En 1986, Mme Thatcher signa l'acte unique sous la même impression ou illusion. La réunification de l'Allemagne l'inquiéta beaucoup en 1989 et à la veille de son départ de ses affaires. Elle n'avait pas convaincu François Mitterrand de l'aider à l'empêcher. De même, elle avait participé sans enthousiasme au fait du bicentenaire de la Révolution française, ne perdant aucune occasion de proclamer les mérites supérieurs de l'œuvre contre-révolutionnaire d'Edmund Burke. Par ses rapports avec le président Reagan, elle tenait à rappeler aussi l'importance du special relationship et de racines constitutionnelles communes avec les États-Unis. John Major, le successeur immédiat de Mme Thatcher, partageait aussi l'impression que nous n'allions pas vers l'Europe unie et centralisée lorsqu'il apposa sa signature au traité de Maastricht en 1992, obtenant l'option de ne pas adopter une monnaie unique. Mais la vision qu'avaient les Britanniques de la France en cette fin de siècle était quand même qu'elle construisait activement l'Europe, l'Union européenne. Ils craignaient qu'elle ait le soutien d'une Allemagne forte et réunifiée dans cette entreprise inquiétante pour un pays aux fortes traditions différentes. Pensant au special relationship, Major aurait refusé une invitation de participer à une troïka qui aurait piloté l'Europe nouvelle. Les choses allèrent se préciser assez rapidement. Les conservateurs de John Major étaient maintenant divisés au sujet de l'Europe et furent battus aux élections de 1997. L'arrivée de Tony Blair au pouvoir faisait penser que le New Labour allait donner le coup de barre pour faire entrer la Grande-Bretagne dans le grand projet européen. En 1998, la déclaration franco-anglaise de Saint-Malo sur la défense semblait un premier pas vers une politique de défense européenne commune, idée que la Grande-Bretagne avait opposée pendant des décennies. Mais à part certaines opérations conjointes en Afrique, le projet n'allait pas plus loin. La Grande-Bretagne restait résolument atlanticiste. On l'a vu au sujet de l'Irak et le fait que Blair, tout européen qu'il fût, voulait rester proche des États-Unis ou du special relationship, lui fit refuser l'Europe de la défense de Jacques Chirac et de Gerhard Schröder en avril 2003. Blair était partisan d'entrer dans l'euro, mais il n'opposa qu'une faible résistance à l'opposition de son ministre des Finances, éventuel successeur Gordon Brown, et à son propre parti. La livre était forte à l'époque et l'est restée, et la décision britannique lui a épargné certains des pires effets des crises financières de 2008 à 2009 et de 2012. Le moment de décision approchait, de la création officielle de l'Europe et l'adoption d'une constitution. Les électeurs britanniques qui ne furent pas consultés par leur gouvernement au sujet du projet de constitution assistèrent à son rejet par référendum en France par 54% des votants en mai 2005 et par 61% des Néerlandais en juin. La suite des événements donna aux Britanniques l'impression d'une énorme magouille qui prit la forme d'une refonte de la Constitution sous la forme d'un traité dont la signature en 2008 fut retardée par son rejet une première fois par les Irlandais, quitte à être finalement ratifié par eux dans un second référendum en 2009. Gordon Brown signa le traité de Lisbonne en catimini la nuit, son ministre des Affaires étrangères, David Miliband, l'ayant signé pendant la journée avec les autres signataires. Il fut alors prestement adopté par la Chambre des communes par 332 voix contre 221, avec de vives protestations de David Cameron, nouveau chef du Parti conservateur. C'est le seul vote qu'il y ait eu en Grande-Bretagne au sujet de la création de l'Union européenne et de l'adoption de sa constitution avant le référendum populaire de 2016. Les travaillistes perdirent les élections 2010, mais les conservateurs ne revinrent au pouvoir qu'après avoir conclu une alliance avec les libéraux qui ne voulaient pas qu'on touche au projet européen. Les conservateurs étaient déjà menacés par le parti UKIP anti-européen et Cameron promit un référendum afin de capter leur électorat aux élections 2015. Il gagna les élections de justesse mais perdit le référendum en 2016. Je m'arrête à cette date car la suite des événements se déroule actuellement. Mais avant de vous livrer mes conclusions, je dois dire un mot concernant les relations sociales franco-britanniques telles qu'elles ont évolué depuis que nos deux pays sont dans la communauté européenne. D'abord, on doit mesurer l'impact du tourisme de masse. En 1929, la France accueillait environ 880 000 touristes venant de la Grande-Bretagne. En sens inverse, seulement 55 000 Français avaient fait le déplacement outre-Manche. En 1995, 10 millions de Britanniques sont venus ici, contre 3 millions de Français traversant la Manche dans l'autre sens. Selon un sondage de septembre 1995, 15% des 2000 personnes interrogées, soit un échantillon assez important, citaient l'Espagne comme leur dernière destination de vacances, contre 5% qui donnaient la France, juste avant les États-Unis, la Grèce et la Belgique. Mais 50%, l'échantillon, déclaraient s'être rendus en France au moins une fois au cours de leur vie. Les chiffres fluctuent avec les années, mais environ 100 000 Britanniques possèdent une résidence principale ou secondaire en France. 3% de la campagne française leur appartient. Il s'agit surtout de retraités. Environ 250 000 Français, qui a grimpé à 500 000, se sont installés en Angleterre et près de 1 300 sociétés françaises y sont établies pour 1 800 sociétés investies en France. Les Français en Grande-Bretagne sont souvent de jeunes entrepreneurs. Dans tous ces chiffres, il y a aussi naturellement beaucoup d'étudiants. Dans le domaine de la mode, les Britanniques ont été à la tête de maisons de couture parisiennes. Un Anglais a été à la tête de L'Oréal, un condisciple de mon collège à Oxford. Plus de 110 restaurants britanniques se sont vus décerner des rosettes au Michelin. 40 ans ou plus d'interpénétration de peuples ont dû laisser des marques profondes ou superficielles. Les Anglais écrivent même des romans au sujet de la France. L'humoriste Posy Simmons a même adopté Madame Bovary en un roman à bande dessinée où Gemma Bovary se fait séduire par un Français au charme fou qu'il abandonne finalement pour épouser une fille BCBG qui s'appelle Delphine. Néanmoins, le fait reste que les Britanniques, même s'ils voyagent beaucoup ou résident en France, restent conscients de ce qu'ils considèrent comme le déficit démocratique dans la construction européenne. Ils ne sont pas les seuls probablement en être conscients, mais ils restent fiers de leurs propres institutions parlementaires qui n'ont finalement pas une grande affinité avec les institutions représentatives européennes et que les continentaux ont de la peine à élucider ou à comprendre. La France représente une vision, si l'on peut dire, de l'Europe. À cette vision est liée une autre, celle du couple franco-allemand comme force motrice poussant en faveur d'une plus grande intégration européenne, et cela en dépit de réticences allemandes de plus en plus prononcées. Face à un certain déterminisme qui a déjà heurté des pays comme la Grèce ou l'Italie, face aussi à la montée partout de ce qu'on appelle le populisme et face à une immigration mal contrôlée, les institutions européennes ne semblent pas vouloir se réformer en profondeur. Qu'est-ce que le populisme au juste ? Sous sa forme électorale, c'est le rejet par un grand nombre grandissant d'électeurs de la manipulation pratiquée par des élites politiques, manipulation au niveau de promesses non tenues ou qui n'engagent que ceux qui y croient, tant en France qu'en Grande-Bretagne ou ailleurs. La Grande-Bretagne est peut-être le dernier pays à réagir à cette manipulation, où sont entrées même des associations ou organisations vénérables ou paritatiques comme le Franco-British Council ou le Franco-British Council lui-même assez moribond. Les pays sont assez divisés. En Grande-Bretagne, une majorité au référendum et le récent succès de Nigel Farage et de son parti du Brexit aux élections européennes n'a fait que renforcer cette majorité, est prête à réaffirmer son indépendance et le désir de faire cavalier seul comme elle l'a fait au cours de sa longue histoire. Une autre section reste attachée à de vieilles racines européennes, à l'entente cordiale, à la France où sont enterrés tant de nos soldats des deux guerres, où il fait bon vivre et de bien manger, et à regarder le rugby et le football ensemble. Enfin, il y a ceux qui préfèrent tout simplement pouvoir voyager facilement d'un pays à l'autre. Et ceux qui connaissent un peu l'histoire et le prix de leur liberté veulent néanmoins combler le déficit démocratique. On peut sans doute s'entendre avec eux, et même, qui sait, s'allier aussi. Mais dans les circonstances actuelles, les négociations qui s'annoncent de nouveau seront certainement durs et le bras de fer ne sera pas absent. Ce n'est pas pour rien que Churchill reste toujours le héros aux yeux de la majorité des Britanniques. Je vous remercie.